Dans l'optique de favoriser une culture d'apprentissage et de partage de bonnes pratiques, l'Observatoire estrien du développement des communautés présente Sonar, un balado qui explore en profondeur les dessous de l'action collective et du développement des communautés en Estrie à travers des rencontres inspirantes avec les acteurs sur le terrain. On vous présente un épisode sur les perspectives pour les personnes aînées en temps de COVID-19. Aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir d'être en compagnie de la professeure-chercheuse Suzanne Garon, affiliée au Centre de recherche sur le vieillissement de l'Université de Sherbrooke. Madame Garon, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous dire un peu qui vous êtes et comment vous vous réalisez professionnellement dans la région de l'Estrie?
Moi, je suis venue ici, je viens des Laurentides, mais je suis venue ici après des études doctorales à l'étranger, en Allemagne. Mais je cherchais un poste de professeur. Je suis sociologue, donc je m'attendais à être dans un poste de... en sociologie, mais finalement, il n'y a pas de sociologie. Mais le département ou l'école de travail social de l'Université de Sherbrooke fait vraiment fonction un peu d'études sociologiques. Et donc, je me suis retrouvée ici et ça fait 29 ans et j'ai aucun regret. Quelle belle région!
C'est bien vrai. Aujourd'hui, on va parler des perspectives pour les personnes aînées en temps de COVID-19. Pouvez-vous nous exposer d'abord les impacts de la pandémie sur les aînés de l'Estrie et plus particulièrement sur les relations intergénérationnelles?
C'est comme un peu deux questions. Je vais commencer par ce que moi ça a été vécu, là, ou comment c'est encore vécu par les personnes âgées. Je dirais que je pense que pour la plupart des gens, surtout à partir de ceux qui avaient 70 ans et plus, et pendant le confinement, il y a eu un moment donné où ces gens-là ne pouvaient plus sortir. C'était comme... Et s'ils sortaient, ils avaient le sentiment d'être regardés et d'être jugés d'être sortis. Alors, il y a eu, pour en avoir interviewé quelques-uns, puis d'ailleurs, je fais une recherche là-dessus, justement, sur ces éléments-là, un sentiment d'isolement social total, un sentiment que j'appellerais aussi d'être laissé à eux-mêmes, d'avoir été lâché par le système. Parce que là, ils se retrouvaient encore capables de faire des choses, mais ayant une interdiction publique de quitter l'espace public, ça a été extrêmement dur à prendre. Et ça on l'oublie, là, mais c'est vraiment, ça a été très présent. Et donc, il y a eu ce moment-là, il y a eu à la fois, ça n'a pas été fait de façon méchante, ça a été fait dans une volonté de les protéger, mais ça a été perçu comme une forme d'âgisme. Et ils l'ont vécu comme une forme d'âgisme, et avec raison. Nos liens sociaux passent par des moyens de communication qui sont souvent trop rapides, avec lesquels on n'est pas capable de faire des nuances, et c'est dommage parce qu'il y a eu des blessures. Moi, j'ai entendu des gens dire « je ne m'étais jamais sentie vieille, je ne m'étais jamais sentie vieux », mais la COVID m'a fait sentir que j'étais « out ». Qui fait que... Et ça, même après là, l'ouverture et tout, ça a laissé des marques. L'autre élément concernant l'autre partie de votre question sur les relations intergénérationnelles, j'ai une étudiante qui vient de finir un mémoire sur l'intergénérationnel, puis je pense qu'elle n'a même pas réussi à définir qu'est-ce que c'était. juste pour le public qui écoute, la première intergénérationnelle en vieillissement, c'est souvent les proches aidants, hein, la famille immédiate, les enfants, c'est souvent des femmes, hein, à 90%, c'est souvent des femmes. Donc, c'est la fille de la mère ou du père qui se trouve être la proche aidante ou le proche aidant quand c'est un fils, mais c'est déjà là une intergénérationnelle. Même si la personne a 90 ans, qui est l'autre a 65 ans, 70 ans, dépendamment de l'âge de la personne, il y a déjà une première générationnelle. Mais si on veut parler des plus jeunes, par ailleurs, si on veut parler de ceux qui sont plus jeunes, qu'on pourrait parler peut-être des moins de 40 ans ou moins de 30 ans, ben, au début, on a vu de très belles choses sur... les jeunes en regard aux personnes âgées, comment ils sont allés justement devant les maisons des personnes qui ont des résidences pour personnes âgées. puis qui ont fait des trucs. Il y a eu des, même si en Estrie, il y a eu des gens en Estrie, puis même à Racine, des gens qui sont venus jouer de la musique devant la Brunante. Et ça, c'était beau. Ça, c'était très beau. Maintenant, avec le relâchement, avec le retour tranquillement à des activités depuis la fin du confinement, mais là, il y a comme une espèce de lâcher prise et trop fort qui fait que là, je m'inquiète un peu que, comme c'est le cas aux États-Unis, que les jeunes soient des vecteurs de contamination importante parce que c'est là où se trouve la majorité actuellement des cas de COVID. Donc, il y a comme un sentiment qu'on oublie que, puis on l'entend chez les jeunes, ben moi, je suis pas atteint, je serai pas atteint, je serai pas malade. Je suis trop jeune pour être malade, mais c'est comme si on disait, la phrase presque continue en disant, j'ai pas de contact avec les aînés, je leur ferai pas mal, mais en même temps, ça pourrait aussi dire, je m'en balance. Là, et ça, c'est comme un peu dur à prendre. Comme je vous dis, j'ai commencé une étude payée par le regroupement des Québécois de la recherche sur le vieillissement. Puis c'est ça qu'on va regarder de façon détaillée pendant toute une année là, et voir comment le réseau s'est fait et défait pour une personne âgée. Par exemple, il y a des gens qui n'avaient jamais eu contact avec leur famille, ils n'avaient presque plus de contact, mais des fois, ça a permis de refaire contact. Ou encore avec des voisins, des gens qui n'avaient pratiquement aucun contact avec le voisinage, où le voisinage s'est mis en branle pour aider ou pour être présent. C'est ça qu'on veut regarder, les solidarités. Et peut-être aussi le contraire, hein. Il va y avoir aussi des moments où on regarde des cas extrêmes. Donc, je vais pouvoir vous revenir là-dessus éventuellement.
J'aimerais voir comment la pandémie a-t-elle modifié la réflexion des citoyens à propos de la place des aînés dans leur communauté.
Je ne sais pas si on peut parler encore là, d'une réflexion organisée par rapport à toute la communauté, parce que c'est encore trop tôt pour le dire, comme je le disais tout à l'heure. Par ailleurs, ce qu'on voit, c'est une réflexion qui est de plus en plus solide et de plus en plus aiguisée par les personnes âgées elles-mêmes sur le mode de vieillissement, le mode de vie et l'habitat. Ça, juste cette semaine, j'ai reçu deux demandes au Québec, qui ne viennent pas de l'esprit, là, qui viennent d'ailleurs au Québec, qui veulent me parler parce que j'ai écrit des choses sur l'habitation. Et dont le travail que fait actuellement l'Observatoire sur l'Estrien sur le développement des communautés, ce projet-là va avoir des résultats, va avoir des retombées auprès de ces gens-là, qui sont des organismes comme tels, mais des gens qui se reparlent entre eux puis qui disent, moi là, ce que je viens de voir là, je veux pas vivre ça. Je veux pas aller en CHSLD, je veux pas aller là. Il y a d'autres modèles. Puis là, ils voient sur Internet ce qui a été écrit, dont le petit guide qui a été fait par mon équipe et l'équipe de recherche ma municipalité Amis des aînés et le Carrefour Action municipale des familles. Et là, ce petit guide-là leur fait énormément plaisir, qui fait que... Mais ils connaissent pas encore les outils là, qui vont émerger là, du projet de l'Observatoire. Et ça, c'est présent. Ça, c'est extrêmement présent. Et c'est bon signe. On n'est pas avec des gens qui attendent que le gouvernement fasse quelque chose pour eux. Mais c'est des gens qui se disent, on va s'organiser, on va vieillir comme on a envie de vieillir. Et ça, c'est très pertinent actuellement. Et on se rend compte qu'on ne peut plus laisser aller les choses comme ça. À un certain âge, il faut se poser la question.
Et ce questionnement-là sur l'habitation pour les aînés, est-ce qu'il se fait dans toutes les sphères de la société?
On ne pourra pas dire tout de suite si l'ensemble de la collectivité a réfléchi sur le vieillissement. Ça, j'ai même un peu des doutes. Je ne suis pas sûre que les gens aient comme compris là, que, je vais le dire une fois, puis je vais le dire plusieurs fois, que sur les 5600 personnes qui sont mortes au Québec, il y en a 5000 qui étaient des personnes âgées, qui vivaient en CHSLD, en ressources intermédiaires ou en ce qu'on appelle des RPA, des résidences pour personnes âgées. 89,2%. C'est unique au monde. On les a échappés. On les a perdus.
Ouais. Quelles sont les embûches majeures de la réponse à la crise et comment ces embûches-là devraient-elles être abordées selon vous?
C'est compliqué parce qu'il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est que quand on, depuis, sais pas combien d'années que je travaille sur l'isolement social des aînés, l'exclusion que vivent les personnes âgées dans certains systèmes organisationnels et tout et tout. Et là, ce qu'on voit, entre autres, si on prend le concept d'isolement social, c'est le manque de rapports sociaux, le manque de chaleur, le manque de sentiment de faire partie d'une unité. Mais là, avec les personnes âgées, et la catastrophe, elle est virale. C'est-à-dire qu'il faut les protéger, donc il faut les isoler d'elles. Parce qu'elles sont les premières victimes, c'est à cause que la charge virale est plus élevée chez elles, chez ces personnes-là. Quand plus on est vieux, plus la charge virale, elle est létale. Donc, il y a vraiment un paradoxe, là, parce qu'on aurait besoin de réconfort, on aurait besoin de les prendre dans nos bras, mais on peut pas le faire. Et donc, c'est vraiment très complexe, et ça va nous demander de faire des choses qu'on n'a jamais pensé faire. Par exemple, comment le numérique, comment nos nouvelles technologies peuvent suppléer à ça. Avant que la COVID soit présente, j'ai une autre étudiante de maîtrise qui a travaillé sur les objets de médiation électronique avec des personnes qui n'avaient jamais joué, qui n'avaient jamais eu une tablette, des femmes de 86 ans, tu sais, qui n'avaient jamais... Puis elle les avait jumelées, tu sais, son terrain était de jumeler avec des jeunes. Et c'est fascinant les résultats qu'elle a parce que on dit tout le temps, la technologie va être terriblement difficile pour ces personnes-là. La motivation est encore plus grande de parler à des jeunes que d'apprendre à jouer avec la technologie. Donc, il faut qu'on aille dans ce sens-là. Il faut qu'on aille à cause du paradoxe que cause actuellement ce type de catastrophe, ce type qui est une pandémie, qui est virale. Mais on comprend bien là, qu'il y a comme un enjeu qui est très différent que si on avait eu un verglas ou quelque chose comme ça, où on aurait pu reprendre les gens. On est des animaux sociaux, on a besoin de chaleur, on a besoin... Et ça, c'est complexe, c'est vraiment complexe. Mais ça va nous amener plus loin. Vraiment, ça, il va falloir qu'on ait une littératie technologique qui se développe à vitesse grand V pour toutes les générations. Puis en intergénérationnel, ça serait le fun.
Selon vous, qu'est-ce qui a pu se passer au niveau de la santé pour qu'on en vienne à la situation qu'on a connue au Québec?
C'est une catastrophe ce qui s'est produit. On a vu, c'était le révélateur d'une très mauvaise gestion. Je dirais, entre autres, le résultat le plus probant, oui, le plus négatif de la loi 10, qui était comme une réforme, qui était la réforme amenée le 1er avril 2015 par le gouvernement du Québec, qui était vraiment une réforme du ministère de la Santé et des Services sociaux, dans toute sa complexité.
Et quels sont les effets de cette loi qui ont été au cœur des problématiques?
On l'avait vu que c'était terrible, parce que ça centralisait, ça enlevait des unités de soins dans les localités. On perdait un contrôle sur notre système de santé, dans lequel on avait très peu, d'ailleurs, de contrôle déjà. Mais on enlevait ce qui restait. Mais là, ce qu'on a vu, c'est encore pire. Ce qu'on a vu, c'est vraiment une déficience complète. On ne savait même pas, quand on donnait une directive, si le suivi se faisait. On était incapable de déterminer si l'ordre descendait ou pas. Ça, c'était vraiment, pour moi, c'était... Puis les gens disaient, en parlant de Mme McCain à l'époque, quand c'était elle qui était ministre, elle sait, mais elle ne veut pas le dire. Non, mais moi, je suis convaincue qu'elle s'imaginait qu'elle pouvait donner un ordre, ça descendait. Non! La loi 10 a brisé l'ensemble des structures décisionnelles. On a enlevé 2000 cadres. Les gens ne savaient même pas qui était responsable d'un CHSLD. Dans la même boîte, on savait, normalement, on devait s'occuper, il y avait des cours, il y a toujours eu des cours, des formations sur le contrôle des infections. Il n'y en avait plus depuis 2014-2015. Ils ont enlevé cet argent-là. Ça a été vraiment, il y a eu plein de tâches aveugles, des tâches aveugles complètes. On n'avait pas vu les agences de placement, on n'avait pas vu les conditions de travail qui ont été tronquées pour répartir la richesse vers le haut. C'est pas parce qu'on a diminué les dépenses, là. On les a mis ailleurs. Chercher l'erreur. On calcule qu'il y a eu, la CSN qui calculait qu'il y a eu, je crois, c'est 30 % d'augmentation du salaire des médecins vers la même période. Fait que donc, il y a eu des choix sociaux qui ont été faits, mais cachés, on ne le savait pas, on ne le voyait pas. Et ça, ça a été le révélateur de ça. Et il y a eu 5600 personnes, je le répète, qui sont décédées dans ces CHSLD-là parce qu'on n'a pas vu l'ampleur de la désorganisation qui était présentée comme une organisation au nom de la loi 10. Moi, j'en veux encore. Et je veux vraiment qu'au Québec, on va apprendre quelque chose de ça. On ne peut pas vivre avec des systèmes de santé qui sont trop centralisés. On ne peut pas faire ça. Il y a plein d'exemples dans le monde qui démontrent que plus le système de santé est proche des citoyens, plus il est performant en promotion et en prévention, puis moins il coûte cher.
Suzanne, vous êtes à la base d'un projet très important pour l'amélioration des conditions de vie des aînés en lien avec les municipalités. Pouvez-vous nous en parler un peu?
J'ai pu mettre en place un programme national là, au Québec qui s'appelle Municipalité Amis des aînés. J'avais participé à une recherche avec l'Organisation mondiale de la santé. Et arrivé au Québec, on a été capable d'intéresser le ministère des aînés, qui était à l'époque Mme Blais. Et il y avait eu une consultation en Estrie. Puis finalement, il y a eu une volonté politique là, de développer quelque chose qui était avec les municipalités. Ça s'appelait à l'époque VADA, pour Ville Amie des aînés. C'est comme ça que c'est appelé. Et la première recherche s'appelait sur VADA. Mais avec le temps, on a repris le terme municipalité pour MADA.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de municipalités au Québec qui font la démarche MADA?
Il y en a maintenant 963 au Québec.
Et quel est votre rôle en ce moment dans le programme?
J'anime ça au plan scientifique, puis au plan aussi de transfert des connaissances. Et donc, on fait beaucoup de travail avec l'organisme qui s'appelle Carrefour Action municipale et famille. On fait de la formation. Il y a, à titre d'exemple, une communauté de pratique avec les grandes villes du Québec, où j'apprends plein de choses, d'ailleurs, de ce qui a été fait pendant la COVID dans les municipalités. Donc, c'est un programme basé sur le développement des communautés, une approche très simple. Mettons en place des moyens pour que les personnes les plus concernées par la réalité à changer, à améliorer, soient celles qui déterminent les besoins. Ça, c'est une approche en développement des communautés qui est fondamentale. C'est en déterminant bien nos besoins qu'on est capable de mobiliser une population. Si on fait pas ça, on fait du top-down, puis c'est des distributeurs de services qui déterminent les besoins. Et ça, il faut éviter ça. C'est ce qui coûte le plus cher. Puis c'est ce qui tue une communauté parce que les gens sont plus intéressés. Ils comprennent pas. Il y a une rupture qui se fait entre le besoin et le service qui est donné. Alors MADA, avec un diagnostic social qui est fait, permet de comprendre les besoins des aînés. Et d'ailleurs, le programme avec trois phases, diagnostic social, plan d'action et mise en œuvre, ce programme-là a été repris après coup par l'Organisation mondiale de la santé. D'ailleurs, ils l'appellent le Quebec's Model, qui fait que je trouve ça très drôle. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis directrice d'un centre collaborateur sur les environnements amis des aînés à l'Organisation mondiale de la santé.
Quel élément pourrait faire en sorte que les aînés soient plus inclus dans le choix des actions à mettre en place?
Moi, je pense que, un peu comme ce qui est prévu dans MADA, quand ça va bien, sur le comité de pilotage, doit siéger des représentants aînés. Il doit aussi y avoir des collectes de données d'informations qui doivent être faites avec les personnes concernées par le problème, donc les personnes âgées. C'est important que les personnes âgées puissent exprimer leurs besoins. Sinon, on passe à côté des vrais problèmes. Je donne juste l'exemple. Quand j'ai commencé MADA, je ne connaissais pas, et les villes non plus, ne connaissaient pas le besoin d'habitation pour les personnes âgées. C'était comme de l'ordre du non-dit, c'était du privé, mais ce n'était pas socialement connu. En faisant les groupes de discussion auprès des personnes âgées, il y avait une rubrique sur l'habitation. On a entendu des choses incroyables. Dire, par exemple, moi, je resterais encore chez nous si j'étais capable d'avoir quelqu'un qui vienne m'aider pour changer mes poignées de porte, mes lumières, pelleter mon entrée. Mais là, je suis obligée de quitter parce que personne n'est capable de faire ça. Il y a des pays qui ont mis en place des choses, dont les accorderies. On a encore peur de ça au Québec, d'avoir ça. Ensuite, moi, je me souviens d'une dame qui avait dit, j'ai 86 ans, j'ai ma pension puis mon accumulation de mon argent, va être à sec à 88 ans. Je vais aller où? Et cette dame-là, je pensais à elle tous les matins quand je m'en allais travailler. Il faut qu'on soit conscient des besoins exprimés par les premiers concernés. Que ça soit, c'est difficile avec les enfants, mais avec les personnes âgées, ils sont d'une sagesse. En plus, ils demandent pas. Ils sont toujours là en train de dire, ben, si vous avez un peu de temps ou un petit peu d'argent, pourriez-vous penser à eux? Qui fait que donc, moi, je pense que c'est des mécanismes en développement des communautés. Chercher les besoins exprimés par les premiers concernés, c'est du développement des communautés. Et ça mobilise. Si on n'a pas ces besoins-là bien exprimés, il y a un livre qui va sortir avec Gaston Michaud, comment les besoins ont émergé, a été fondamental dans le développement d'Abrunante. Il faut qu'on soit capable de faire ce genre de mécanisme de consultation parce que sinon, on passe à côté. Et ça coûte cher de passer à côté.
Oui. Et dites-moi, selon vous, quelle place devraient prendre les municipalités dans la bien-traitance envers les personnes aînées?
Je dirais que les municipalités ont un mandat légal essentiellement là, de bien-être de la population, au sens très large. Et au niveau de la santé, ça va être plus de la promotion, d'aller faire de la marche, des choses comme ça, ou de la prévention, avoir un contrôle sur l'eau qui soit un contrôle propre, qui ne mette pas les gens en danger et tout. Avec le temps, puis avec MADA, ils ont vraiment pu voir qu'il pouvait y avoir une lecture de leur participation aux besoins des personnes âgées, mais aux besoins, on ne se cachera pas, ce qu'une personne âgée a besoin va aussi convenir à une famille avec, ralentir le débit ou la rapidité sur une rue, mais ça va faciliter aussi à tout le monde de traverser la rue, les personnes âgées, mais aussi les personnes qui ont une poussette. Donc, ça joue, il n'y a pas grande demande pour les personnes âgées qui ne va pas pour tout le monde, d'une certaine façon. Et donc, et ils se rendent compte qu'ils ont un rôle à jouer, entre autres, pour briser l'isolement, pour créer des quartiers où les gens ont le sentiment de participer ou d'être dans une communauté. Donc, et ça, de plus en plus, je pense que ce rôle-là est en train d'être pris là, par les municipalités. Par ailleurs, il y a beaucoup encore à faire. Au départ, municipalité amie des aînés, MADA, permettait aux villes juste de comprendre c'était quoi le vieillissement. Et ça, c'est intéressant parce que savoir que, par exemple, en vieillissant, notre réseau social se rétrécit, qu'un des éléments les plus dangereux pour la santé, c'est le fait que quand on est isolé socialement, c'est un des facteurs de risque pratiquement aussi important que la cigarette, ce qui fait que ton espérance de vie est moins bonne, bien, les conscientiser à ça a amené dans MADA des municipalités à faire des choses extraordinaires. Et pas juste, je parle du Québec, mais moi j'ai quand même une vision internationale parce que je travaille avec l'Organisation mondiale de la santé. Il y a des municipalités, je pense la ville d'Oslo, qui a développé des accorderies dans chacun des quartiers en se disant, c'est pas juste de calculer du temps, mais c'est de calculer un échange. Ça facilitait beaucoup, beaucoup le bris de l'isolement social des aînés. Puis on innove socialement. Il faut innover socialement avec ces réalités-là.
Et est-ce que les municipalités ont assez de latitude pour exercer un certain leadership en santé?
La municipalité, c'est sûr, vit aussi autre chose. Elle vit une sorte de frustration parce qu'elles font beaucoup de choses en termes prévention, promotion, mais elles n'ont pas un lien immédiat avec Santé et Services sociaux, le ministère Santé et Services sociaux, qui, vous pouvez le dire, est un immense bloc fermé avec la loi dont on vient de parler, la loi 10. Les municipalités, j'ai fait une étude là-dessus, avaient perdu tous les contacts à l'intérieur de leur, même dans leur, sur leur territoire, avec le ministère Santé et Services sociaux. Il n'y avait plus de répondants. C'est une aberration. Les gens devraient travailler main dans la main. Il y a des choses que les municipalités peuvent faire, mais il faut qu'elles soient faites sous la direction des municipalités, mais avec l'aide de santé et services sociaux. Et ça, c'est bête à dire, mais c'est pas fait au Québec. Plus les mécanismes sont sur du micro-territoire, plus les mécanismes sont effectifs. Les mécanismes d'aide, de service, plus ils sont effectifs. C'est démontré par la recherche. Fait que là, on est là avec des immenses unités centralisées. Je ne sais pas comment va faire le nouveau gouvernement, mais il faut repenser. Et ça tombe bien, parce qu'en Estrie, on a déjà, avec Santé et Services sociaux, ils ont déjà fait ce diagnostic impossible, et ils sont déjà en train de mettre des choses en place qui ressemblent, justement, avec des organisateurs communautaires, pour être capables d'être plus proches des services locaux.
Thank you. Bon, vous nous avez parlé d'habitation un peu plus tôt dans l'entretien, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que la crise de la COVID-19 a révélé par rapport à nos choix de société en termes d'habitation pour les personnes aînées?
Ça va pas tellement bien, là, parce que ce qu'on a, puis ce qu'on a vu avec la pandémie, c'est que, surtout en Ontario, c'est que tout ce qui était de l'ordre du privé, entre autres, il y a eu un reportage qui a été fait assez solide par la CBC, où on a vu que dans les résidences privées pour aînés, qui sont à profit, qui sont des résidences qui sont cotées en bourse, la pandémie était beaucoup plus dure là qu'ailleurs. Fait que, au Québec, ça n'a pas encore été analysé comme tel, mais ça ne semble pas avoir été le cas. Probablement parce qu'on a une population dans les résidences privées pour aînés plus jeune, puis plus en contrôle de leur vie. Alors qu'en Ontario, des CHSLD privés, il y en avait beaucoup. La question de l'habitation au Québec est à réinventer complètement. On est en croisée des chemins, là, on parle des petites maisons. Encore là, moi, je pense qu'il va falloir développer, de laisser la possibilité aux gens de mettre en place des coopératives d'habitation, que ce soit ces personnes-là qui peuvent choisir jusqu'à l'architecture et non pas comme c'est le cas actuellement où les programmes déterminent l'architecture. On peut pas faire ça. Dans tous les grands projets où les gens se sentent bien, l'architecture leur ressemble. On peut pas avoir des espèces de cadres rigides pour tout le monde. On peut pas. Et donc, il va falloir, encore là, réfléchir sur ce qu'on veut. Il y a au moins une dizaine de modèles qu'on peut trouver ailleurs. D'ailleurs, l'Observatoire fait son travail là-dessus. Il y a eu des documents qui ont été faits, des fiches techniques avec différents types de scénarios possibles. Donc, oui, on est en ébullition, mais il va falloir que l'argent sorte. Puis, que ce soit pas fait comme c'est fait là, avec la Société d'habitation du Québec, qui détermine par ses programmes cadres où on va même manger dans la pièce, dans quelle pièce, puis comment ça va fonctionner, quel carré et tout et tout. Il faut être plus ouvert. On est croisé des chemins, puis c'est, la COVID va accélérer ça.
Suzanne, si vous aviez à conseiller une personne qui commence une carrière dans le développement des communautés et dans l'action collective, qu'est-ce que vous lui diriez?
D'abord, je dirais chanceux, chanceuse. Ce sont des jobs très rares. En Estrie, il en reste encore, mais on a vu beaucoup dans les dernières années une diminution des organisateurs communautaires dans les CIUS. Mais je dirais aussi que le social est complexe. On pense souvent que le social, c'est facile. Oui, c'est facile, mais comme les choses les plus simples, c'est les choses les plus complexes. Et on oublie ça, et puis c'est un objet d'étude qui devrait être pris vraiment, le social, pris sérieusement, puis de façon systématique. Il ne faut pas juste dire, je fais du développement des communautés parce que je fais telle chose, je vais développer une coopérative. Ce n'est pas juste ça. Il faut comprendre les liens sociaux, il faut se donner des moyens pour apporter des informations pour changer les choses. D'ailleurs, à cet égard, l'Observatoire fait une super job avec ses tableaux de bord, parce que le tableau de bord permet de bien analyser un milieu puis de voir comment, après coup, on est capable d'intervenir. Et donc, ça demande... Le DC, c'est aussi très complexe. Le développement des communautés, c'est aussi très complexe et très, très, très puissant. Mais c'est ça que je dirais à mes jeunes, puis je leur dirais, c'est vraiment le fun parce que vous changez le monde.
Et en terminant, est-ce qu'il y a des chercheurs qui vous inspirent dans votre pratique?
Bien, moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur les idéalistes allemands, Fichte, Hegel, Kant, puis leur influence sur la sociologie américaine, entre autres un psychosociologue qui s'appelle George Herbert Mead. Puis Mead va dire, puis ça, c'est tellement... Moi, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, puis que je pense que je l'aurais pu l'écrire éventuellement. On est des « nous » avant d'être des « je ». Si on veut améliorer une vie individuelle, il faut d'abord améliorer le collectif. On est du collectif. On est dans un monde qui valorise l'ego. L'ego n'existe pas. Si on reprend chacune des analyses sur l'ego, on va voir que derrière cette personne, cet ego, ou cet individu, il y a une famille, il y a une communauté, il y a un quartier, il y a des écoles. Donc, si on pense comme ça, ça donne tout le sens du développement des communautés. On est des « nous » avant d'être des « je », puis il faut améliorer le « nous » pour avoir des meilleurs « jeux ».
Suzanne Garon, merci beaucoup d'apporter votre éclairage et de partager avec nous votre passion, votre travail. Et on vous souhaite bonne chance pour la suite.
Ça me fait bien plaisir.
Vous écoutiez Sonar. L'Observatoire estrien du développement des communautés accompagne et renforce les communautés dans le développement d'une culture d'apprentissage et de la capacité d'agir collective. Vous aimez ce balado? Devenez membre de l'Observatoire pour bénéficier de plusieurs avantages.